Bonsoir, heureux de vous joindre à nous dans cette tribune de la presse au cours de laquelle nous débattrons trois thèmes, à savoir crash d'avion hier jeudi avant midi au quartier Kingasani à Souka dans la commune de Kimbaseke à Kinshasa, réaction lundi dernier de la conférence nationale épiscopale du Congo et le mouvement catholique Pax Christi International sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, ouverture le mercredi dernier au grand hôtel de Kinshasa du forum sur la décentralisation, ministres, députés, gouverneurs de province, ambassadeurs, experts, autorités administratives et bourgmestres participent à cette rencontre. Pour commenter ces différents thèmes, nous avons dans ce studio Claude Molicho Kayembe, journaliste à la radio nationale télévision congolaise, au service de radio à Kinshasa. Nous avons également Martin Moukania, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques parissant à Kinshasa. Rigobert Ebolinda Zenga, correspondant des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin à Kindu, dans le Maniema. Il intervient au téléphone. Et enfin, nous aurons Frédéric Nicolas, journaliste de la Radio Canada. Il sera également avec nous. Bonsoir, chers confrères.
Bonsoir.
Crash d'avion hier jeudi avant midi au quartier Kingasani à Souka, dans la commune de Kimbaseke à Kinshasa. Un Antonov 26 de la compagnie Africa One est tombé entre deux parcelles. L'accident est survenu une minute après le décollage à l'aéroport de Njili. L'appareil, un semi-cargo à destination de Chikapa, transportait selon nos sources entre 13 et 18 passagers ainsi que des marchandises. Le film des événements avec jeudi Kachama.
Attiré par une grande fumée noire qui s'élève d'une parcelle de Kingasani 1, des foules accourent de partout pour constater les dégâts. Le chef du quartier nous fait le récit des événements.
À environ 10h45, tout à coup, j'ai entendu le coup de rebondissement d'un moteur d'un avion. Et immédiatement après, c'était le crash. On a accouru, j'avais des blessés graves dans le quartier. J'ai vu personnellement 6. Les morts, bon, je n'ai pas pu dénombrer que c'était dans une jeep.
On aperçoit les jeeps de la police ainsi que de l'ambulance en train d'évacuer à grande vitesse les victimes brûlées par les flammes vers l'hôpital général de Kinshasa et l'hôpital Roi Baudouin de Massina. Quelques réactions des habitants du quartier témoignent de l'événement.
J'ai vu des gens qui sont morts calcinés. Il y en a eu un dont les intestins brûlaient à l'extérieur, un pied dont toute la partie charnue a brûlé, il n'y avait plus que l'os. Beaucoup ont brûlé sous le feu. Je suis monté sur un mur pour voir. Par rapport à ce que nous avons vu et que nous avons essayé de secourir, il y avait quelques enfants, 200 morts sur place et deux autres étaient dans un état très critique.
Trois véhicules anti-incendie de la RVA se sont évertués sans succès à éteindre les flammes. Ils se retirent sous les hurlements de la foule qui n'est pas satisfaite de leurs prestations. Après avoir visité le lieu du crash, une cellule de crise composée du ministre des Transports, le ministre d'État près du Premier ministre, le ministre des Affaires humanitaires, le gouverneur de la ville ainsi que l'inspecteur provincial de la police de Kinshasa s'est réuni dans une école primaire du quartier pour voir dans quelle mesure apporter une assistance aux familles sinistrées.
Dernier bilan du ministère des Affaires humanitaires, plus de 35 personnes tuées et 30 blessés acheminés dans différents hôpitaux de la place. On signale également, comme conséquence de ce crash, la révocation du ministre des Transports par le chef de l'État. Claude Molicho Kayembe, vous êtes journaliste à la RTNC ici à Kinshasa. Votre réaction par rapport à cette situation?
Et merci, je dirais que c'est dommage de vivre encore un autre crash, un crash de plus sur le sol congolais, parce qu'on a dénombré plus de 5 à l'espoir d'un temps record. C'est bien dommage et c'est vraiment regrettable d'enregistrer encore des morts pour rien. Mais tout d'un coup, nous venons d'apprendre que le chef de l'État, en accord avec le Premier ministre, vient de révoquer le ministre des Transports. Et c'est une décision qui vient de tomber. Et nous, on peut dire que, bon, il y a la responsabilité, les responsabilités sont partagées dans ce qu'on connaît dans ces dossiers. Et il a fallu d'abord donner du temps au ministre des Transports de s'expliquer au niveau du Parlement pour éclairer le grand public, parce que les gens ignorent les correspondances enregistrées entre le ministre d'État après la présidence de la République et le ministre des Transports. le dossier date il y a plus d'un mois, où le ministre d'État, après la présidente de la République, Maître Nkoulou, aurait instruit au ministre des Transports, Alain Kousseyo, de lever la mesure de suspension des appareils autonomes de fabrication russe sur dans les airs congolais. Alors, aujourd'hui, on apprend qu'on vient de les suspendre, et c'est bien dommage, mais nous pensons que les responsabilités sont partagées dans ce dossier.
Roger Ebolinga Zenga, je rappelle que vous êtes correspondant au Maniema, des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin. À partir de Kindu, quels commentaires faites-vous au sujet de ce crash?
Oui, merci, confrère. Vous savez que pour l'événement malheureux d'hier, c'est le fruit des conséquences de la légèreté dans la prise des mesures drastiques qui peuvent mettre la population à l'abri de certains dangers. Or, il n'y a pas longtemps, le ministre a signé un arrêté sanitaire pour épargner les vies humaines de ces entonnoirs riches. Mais en contrepartie, il n'a pas pu prendre la solution des réchanges. D'où son désir a été fragilisé par des arguments avancés par les populations bénéficiaires, par exemple à Kindu. Il n'a pas fait une semaine après l'interdiction de ces cercles volants, de ces volets et ces congolais, de voir le prix des produits manufacturés qui sont transportés par ces avions montés de façon vertigineuse. Alors, allez-y comprendre. Alors, aussi longtemps que l'État congolais continuera avec du short-core dans de telles situations, en tout cas, nous allons résoudre toujours des situations pareilles. Alors, c'est regrettable. Comme on venait d'apprendre que le ministre des Transports venait d'être révoqué. Pourquoi? Et après d'avoir connu des situations drastiques, et après, on va laisser comme ça. Non.
Donc, selon vous...
Je n'ai pas beaucoup de commentaires à ça là-dessus. C'est malheureux. C'est malheureux.
Merci, Roger Ebolinga. Martin Moukania, je précise que vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques parissant à Kinshasa. Est-ce qu'il n'était pas d'abord possible au gouvernement de résoudre, d'apporter une solution à cette question en amont?
Il était vraiment nécessaire que le gouvernement puisse apporter une solution. J'aurais souhaité, à mon avis, avant la révocation du ministre Kousseyo, qu'on puisse mener des enquêtes sérieuses sur cette situation, qu'on puisse établir les responsabilités des uns et des autres. À partir de ce moment-là, on verra où est la vérité, on prendra des décisions conséquentes. Tel qu'on l'a fait, on dirait qu'on veut cacher quelque chose. La vérité doit être ailleurs. La vérité du ministre ne doit pas être connue.
Selon vous, la vérité peut être à quel niveau?
Le ministre a eu à mettre en place une commission de contrôle. Le ministre a pris une décision suspendant le vol des entonnoirs. Si le ministre est revenu sur sa décision, est-ce que dans ces pays que nous connaissons, n'a-t-il pas subi des pressions? Il aurait subi des pressions quelque part, je ne l'affirme pas. C'est peut-être à l'issue de l'enquête qu'on aurait su toute la vérité autour de cette affaire. Il y a eu précipitation, je le regrette. Il fallait laisser faire avancer les choses de telle manière que les ministres se présentent à l'Assemblée nationale, ils parlent, toutes les personnes impliquées dans ce dossier s'expliquent, on laisse la vérité. C'est ça.
Merci Martin Moukania. Frédéric Nikolov, nous précisons que vous êtes journaliste de la Radio-Canada. À moins que je ne puisse me tromper, au cours de cette année 2007, il y a eu environ 3 crashs au niveau national. Quelle est votre lecture de cette situation qui se répète malheureusement dans notre pays?
Oui, écoutez, on sait ici, d'ailleurs cette nouvelle a été rapportée au Canada largement, que ce soit dans les télévisions ou à la radio, ou encore ce matin dans les journaux nationaux. Ce que l'on dit en même temps ici, c'est que cette compagnie Africa One était une compagnie qui était suspendue dans plusieurs aéroports, c'est-à-dire que ces avions étaient interdits d'atterrissage dans plusieurs aéroports européens et nord-américains. Donc visiblement, on était déjà au courant, probablement, des lacunes sécuritaires de cette entreprise aérienne. Maintenant, ce que nous ignorons et ce que je viens d'apprendre, c'est évidemment le limogeage du ministre des Transports chez vous. Est-ce que cela aura des conséquences? Parce que le transport aérien fragile comme il est dans certains pays, c'est clair que c'est une priorité parce que c'est également un moteur de développement économique. Donc c'est quelque chose de très important.
Mais à votre niveau, Frédéric Nicolas, il y a un arrêté qui a été pris. Vous ne pensez pas qu'il s'est posé également un problème du suivi et de l'application justement d'une décision, par exemple?
Oui, Guy, sans connaître évidemment les détails, j'imagine qu'il y a eu une lacune, ça c'est clair. Maintenant, à quel niveau cela s'est fait, ça, j'imagine qu'il va y avoir une enquête, vous le dites vous-même. Mais ce qui est très très important dans ces cas-là, c'est que l'enquête soit vraiment une enquête impartiale, et de façon à ce que ce genre d'incident ne puisse pas se reproduire, ou le moins possible, et qu'une compagnie, africaine, puisse dorénavant avoir accès aux aéroports internationaux. C'est ça qui est quelque chose de fondamental.
Claude Molisseau, une réaction par rapport à ce que venait de dire Frédéric Nicolas?
Oui, je dirais que nous savons tous que la compagnie Africa One est frappée d'interdiction ailleurs, mais ici chez nous, elle est acceptée. Pourquoi elle est acceptée chez nous? Bien sûr, nous savons les besoins du trafic aérien au niveau national. Le pays est très vaste, il n'y a pas de route, il y a nécessité d'exploiter, de mettre des flottes sur le sol congolais, mais il faut voir la qualité. Et si vous voulez épargner les vies humaines, il faut vraiment que vous mettez à la disposition des gens, des appareils qui sont de bonne qualité. Et si vous voulez donner un bon service, il faut le faire la qualité. Mais chez nous, on dit de temps en temps, non, voilà, et le pays est vaste, il n'y a pas moyen d'interdire les entonnoirs parce qu'il n'y a plus de compagnies et d'avions et on laisse passer les entonnoirs. Et voilà les conséquences. On va répéter. Il y a Goma, il y a Kalemie, il y a Kipka, et aujourd'hui, on parle des crashs de Kingasani. Et on va encore, si. Il faut dire toujours que non, on laisse passer. Comme il n'y a pas d'avion, on laisse passer les entonnoirs. On peut changer de ministre, mais il n'y aura pas de changement.
Martin Moukanea, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques qui paraît à Kinshasa. La RDC, notre pays, ne dispose pas d'assez d'avions pour vous avez suivi Rigobert Bolinda de Zenga de Kindu qui disait que, bon, cette situation, il y a eu augmentation des prix des produits des premières nécessités dans ce coin. Et quelle peut être la solution? Parce que d'une part, si on suspend, il y aura plus de moyens d'évacuation et des produits des parts et d'autres. Donc, un commentaire là-dessus, à votre point de vue.
Il faut qu'on précise ceci. Les entonnoirs ne sont pas mauvais en soi. Ce qui compte, c'est le contrôle régulier. Un avion avant de voler, même un avion avant de voler, un contrôle technique. Quand il vole, 6 mois après, il y a un check professionnel et un check régulier. Régulièrement, est-ce que nos avions sont soumis à ces exercices-là? C'est là que le problème. Je vais aussi vous dire que il y a un flou autour du propriétaire de l'appareil qui a craché hier. D'aucuns parlent d'Africa One, d'autres parlent d'Elsam. Vous voyez un peu ce flou-là, ce désordre-là. C'est pourquoi moi j'insiste sur l'enquête. L'enquête allait établir des responsabilités des uns des autres. Les responsabilités d'Africa One, les responsabilités d'Elsam et les responsabilités de Mali là, qui a affrété cet avion-là. Il y a un flou, donc on risque de ne rien faire. On risque de ne pas connaître la vérité. Voilà, on risque de ne pas connaître la vérité.
Merci, Martin. Rigobert et Bolinda, rapidement, comment vous voyez cette situation? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'une certaine désorganisation, même au niveau de la RVA, qui gère pratiquement l'espace aérien congolais?
Oui, merci. Je vais me poser d'abord cette question. Pourquoi est-ce qu'on hésite à réhabiliter la société étatique de transport aérien dans notre pays? Qu'on pose cette question à toutes nos autorités. Parce que ce sont les mêmes autorités qui préfèrent entretenir certaines zones d'ombre pour qu'ils tirent des dividendes. C'est tout. Pas plus tard que le samedi passé, nous avons appris qu'il y avait un agent qui était disparu à 5 minutes de vol. Mais qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Est-ce qu'on a mené des enquêtes pour connaître la suite? Je disais tout de suite là, non. Qu'est-ce que le gouvernement fait jusque-là pour remédier à cette situation? Et je vais poser une autre question. Depuis que la monnaie existe ici chez nous, on a déjà enregistré combien de cash? Donc, ils utilisent les entonnoirs, ils utilisent des machines. Et je vous laisse cette question à répondre.
Merci, Roger et Bolinda. Le Forum national sur la décentralisation s'est ouvert le mercredi dernier au Grand Hôtel de Kinshasa. Ministres, députés, gouverneurs de province, ambassadeurs, experts, autorités administratives, bourgmestres étaient présents. Passer d'une démocratie représentative à une démocratie participative avec des conseils des représentations du peuple à tous les niveaux. D'après le ministre de l'Intérieur, sous la direction duquel se déroule ce forum, les résolutions qui en sortiront vont finir dans un document stratégique de base pour le développement local, document qui sera remis aux bailleurs de fonds pour un financement. Pendant les débats, les gouverneurs de province réagissent mal par rapport au principe d'avoir un représentant du gouvernement central dans les provinces. Ce dernier sera comme l'œil et l'oreille de l'exécutif central. Je vous propose à ce sujet la réaction du gouverneur du Kasaï oriental, Ngoyika Sangi.
Cela est anticonstitutionnel. Je crois que nous devons respecter notre constitution. Pour faire concourir, il faut que ça aille. Donc, on ne peut pas vouloir décentraliser et centraliser au même moment. La constitution de notre pays stipule que la province, il y a deux institutions. L'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Il n'y a pas une autre institution qui doit être installée en province qui dépend du pouvoir central. Les ordres de bonne conduite de l'agent public de l'État, tout agent public de l'État en province, le pas de la seule autorité, qui est le gouverneur de province, qui est le représentant personnel du président de la République. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui sera là, qui ne dépend pas du gouverneur, qui est égal au gouverneur. Non, il y a une seule autorité en province, le gouverneur de province, qui représente le président de la République. Donc, nous nous opposons à cela.
Ces propos ont été recueillis par notre confrère Daniel Wangisha de l'unité vidéo de la Monique. Claude Molich au KMB, je précise que vous êtes journaliste à la RTNC. Et quel peut être l'apport objectif de cette décentralisation finalement pour le pays et pour la population?
Vraiment, la décentralisation était très très attendue par tous les peuples congolais. Et parce que vous savez, le pays est très très vaste même. Il faut vraiment que les régions deviennent autonomes. Mais récemment, vous avez suivi que avant la tenue de ce forum sur la décentralisation, qui prépare en fait la loi sur la décentralisation, il y a eu des plaintes au niveau de gouverneurs et commissaires de district qui disaient que voilà, on a mis en place des assemblées provinciales, mais il n'y avait pas de loi pour la retenue de 40%. Il fallait d'abord mettre en place la loi organique avant d'installer les assemblées provinciales, parce que on va petit à petit d'ici 3 ans vers la décentralisation effective. Et ça, c'est très très fondamental, et le gouverneur du Kasaï oriental n'a pas tort de se plaindre sur les représentants encore du chef de l'État ou de ce gouvernement dans des provinces. Non, il faut décentraliser au vrai sens du mot. Et l'article, si j'ai mon mémoire, l'article 204 de la Constitution est clair sur les compétences exclusives des provinces. Et donc, les provinces, la RDC, les futures provinces, les futures provinces doivent fonctionner normalement. Et les 40% doivent être retenus. Et pour le bon fonctionnement, parce qu'on doit monter des projets d'intérêt communautaire au niveau local, les gens doivent s'organiser, il n'y a plus de routes, donc tout est à recommencer dans ce pays, et il faut des moyens au niveau de base, au niveau local, pour aller de l'avant, pour le développement des entités provinciales.
Merci. Roger Ebolinda Zenga, vous êtes correspondant des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin au niveau du Maniema, de la province du Maniema. Vous avez suivi la réaction du gouverneur du Kasaï qui rejette le fait d'avoir un représentant du gouvernement central au niveau des provinces. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement ne veut pas laisser toute la gestion des provinces entre les mains des gouverneurs de province?
Oui, par là de l'injonction ou de l'interposition du gouvernement central par la présence d'un commissaire que j'ai suivi à 48 heures à chaque province, ça c'est aller en dehors de la constitution qui a été votée par l'ensemble de la population, car nous devons supporter toutes les conséquences de notre turpitude. Nous ne pouvons pas accepter, comme a déclaré le chef de travaux Aroua Mourani, je cite, il ne peut pas avoir un gouverneur qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire. Eh bien, de tels comportements, ça annonce déjà le début de l'imbroglio de ce processus. J'espère qu'il y a quand même un mécanisme mis sur pied au niveau de l'exécutif pour le contrôle. On doit l'actionner pour qu'il soit actif.
Alors, dans ce cas, quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Parce que finalement, l'Assemblée provinciale, c'est pratiquement l'œil elle est là pour contrôler, n'est-ce pas, l'exécutif au niveau des provinces.
Voilà, vous me complétez. J'ai dit ceci, ce mécanisme-là, c'est l'Assemblée provinciale qui va contrôler l'exécutif. C'est ça l'organe de contrôle, l'organe délibérant.
Merci Roger. Martin Moukanyan, vous êtes directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques, parissant à Kinshasa. Vous partagez la même vision que Roger autour de cette question sur la décentralisation et de ce que je peux appeler la polémique qui existe déjà tout au long de ces travaux?
Bon, je ne partage pas totalement, mais je suis quand même inquiet quelque part. Là, je voulais rassurer mon confrère de la RTT, la présence des membres du gouvernement n'empiète pas sur la tenue normale du forum. Ce qui compte sont les discussions qui vont sortir de ce forum-là. Ce qui compte, c'est la bonne foi des acteurs en présence. Toute la question sur la décentralisation est réglée dans la Constitution. Même si la présence des membres du gouvernement à ce forum-là. Parce que au niveau de la Constitution, c'est bien dit, il y a des tâches qui reviennent à compétences exclusives aux provinces, il y a des tâches qui reviennent exclusivement au gouvernement, il y a des tâches partagées entre les deux. C'est au niveau, autour de toutes ces discussions-là, qu'on va tracer les cadres.
Je vois Claude Monlich en train de hausser un peu la tête là. Rapidement, je vous remets la parole. Oui, Claude.
Oui, je voudrais dire à Moukanya que ce n'est pas le fait que les membres du gouvernement participent au forum sur la décentralisation qui n'est pas bon, non. Nous disons le fait que le gouvernement central, au niveau de la capitale, puisse dépêcher son représentant au niveau de chaque province. C'est là le problème. Et la Constitution n'a pas prévu cela, mais cela n'empêche pas qu'un ministre national puisse effectuer ses missions au niveau de province et s'inquiéter de la situation, de sa compétence et revenir sur son rapport.
Merci, c'est la précision qui vous
a. Oui, mais la nomination de ces membres-là du ministère de l'Intérieur à chaque province a été déjà contestée.
Tout à fait.
Pas les assemblées provinciales.
Tout à fait.
Ça a été déjà contesté. Je ne pense pas que cette décision-là est acceptée. Voilà. Je disais ceci. J'ai suivi les différents discours intervenus lors de l'ouverture. On ne semble pas s'attarder sur l'autonomie financière des provinces. C'est la matière principale. Parce que le projet de développement que le gouverneur, que les assemblées peuvent réaliser, c'est avec des moyens. S'il n'y a pas clarté autour de moyens qui doivent être concédés aux provinces, mon cher, la décentralisation ne va pas réussir. Nous avons vécu pendant longtemps dans un régime centralisé fortement.
Mais la retenue des 40%, finalement, ça ne pourra pas aider les provinces.
Je vous dis que c'est ainsi qu'au niveau de ce forum-là, il faudra, à la sortie de ces travaux, que tout le monde soit fixé. Bien sûr que la retenue va commencer au mois de janvier 2008, mais il faut que tout le monde soit réellement fixé.
Monsieur Martin Moukanyan. Frédéric Nikolov, je précise que vous êtes journaliste de Radio-Canada. Quelle lecture faites-vous de cette question de la décentralisation des entités, des provinces? En fait, la décentralisation des entités viendra après, mais pour l'instant, on parle déjà d'une décentralisation au niveau national. Une réaction?
Oui, Roger, il faut dire une chose, ce débat, je le trouve particulièrement intéressant, ce débat qui vous occupe en ce moment chez vous, en RDC, tout simplement parce que vous savez que le Canada est une fédération qui regroupe 10 provinces, il y a un État central, l'État fédéral à Ottawa, et même si c'est un débat qui chez nous d'ailleurs dure depuis de nombreuses années, est-ce qu'il faut plus décentraliser à l'endroit des différentes provinces, c'est ce que réclame entre autres le Québec. Mais le problème d'une fédération, c'est son équilibre. C'est quelque chose de très Vous savez, l'équilibre est très fragile dans une fédération. Alors, c'est pour ça que c'est un débat qui doit prendre du temps, qui doit surtout se faire dans la sérénité, parce que malheureusement, l'histoire de votre pays montre que lorsqu'il y a eu tentative de sécession juste après l'indépendance, je pense bien sûr à la province du Katanga, les conséquences ont été terribles. Alors, ce forum, ou en tout cas cet espace de discussion, cette réflexion que vous êtes en train de faire, est vraiment quelque chose de très très intéressant pour nous, qui avons un peu les mêmes préoccupations au Canada, et je pense qu'il faudrait que nous puissions nous en inspirer d'ailleurs.
Et vous pensez que la population sera va vraiment bénéficier de cette décentralisation
Mais pourquoi pas? Dans un sens, une décentralisation qui est effective, en gardant bien sûr une séparation des pouvoirs. J'entendais un collègue tout à l'heure qui disait qu'il y a des pouvoirs qui sont dévolus au gouvernement central, d'autres aux gouvernements provinciaux. Il est clair que lorsque l'on réussit, encore une fois, à trouver un espèce d'équilibre entre les deux et que cela ne crée pas de friction, eh bien, un pays fédéral, un pays confédéral, peut à ce moment-là relativement bien fonctionner. Mais il faut que cela se fasse dans l'harmonie, il faut que cela se fasse dans les compromis. Et c'est généralement là que l'on peut que c'est le plus difficile à faire. Mais d'habitude, c'est là où la population peut aussi bénéficier de cela, parce que vous savez, ce qui intéresse le plus les gens dans tous les pays du monde, c'est le gouvernement local. C'est évidemment le gouvernement qui lui donne directement des services à la population, c'est celui qui est le plus proche des gens.
Rosé Ebolinda Zenga, correspondant de Journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin à Kindu dans le Maniema, pensez-vous que aussitôt les lois, les normes sur cette décentralisation définies et adoptées au niveau du Parlement permettre à la population de se retrouver, surtout par exemple dans votre province où vous êtes?
Pas du tout, pas du tout. Cher professeur Roger, je crois que le Congo est l'unique pays qui excelle dans la mauvaise interprétation des textes. Donc c'est une excellence dans la médiocrité. C'est comme mon frère disait tout à l'heure là, que si même on n'arrivait pas à nommer un commissaire, n'empêche que le gouvernement puisse dépêcher quelqu'un, membre du gouvernement, membre d'une institution spécialisée, pour l'audit ou bien pour un contrôle quelconque. Moi, je ne pense pas, même si on arrivait à ratifier tout ce qui se passe actuellement au forum, rien ne va marcher aussi longtemps que le peuple congolais n'a pas encore pris conscience de leurs responsabilités. C'est ça.
Merci Roger. La Conférence nationale épiscopale du Congo et le mouvement catholique Pax Christi International se disent préoccupés par la situation à l'est du pays. Le président de la Sainte-Co, Mgr Laurent Mosengo Pasignan, l'a fait savoir lundi dernier à l'issue du message de la semaine de la paix qu'organise Pax Christi chaque première semaine du mois. Pour mettre fin à la guerre qui sévit à l'est du pays, le prélat catholique a affirmé qu'il faudra tout d'abord respecter certains droits au niveau national et au niveau international. Suivons Mgr Laurent Mosengo Pasignan au micro de André Kitenge.
Il s'agit donc avant toute chose d'identifier les protagonistes de la guerre de l'Est du pays. Je ne sais pas si on a fait cet effort. Qui fait quoi là-bas? Pourquoi le fait-il? Qui tire les ficelles de cette guerre de l'Est? Et ce n'est que quand nous aurons appris exactement à qui profite la guerre de l'Est que nous pourrons arriver à chercher comment mettre fin à la guerre de l'Est. Il ne suffit pas de constater qu'il y a une guerre, il ne suffit pas de constater qu'il y a des protagonistes, il faut encore savoir quels sont les vrais protagonistes. Deuxièmement, nous avons dit que la paix suppose l'instauration de l'état de droit. Je l'ai toujours dit, la guerre des Grands Lacs est une guerre qui est basée sur une crise du droit.
À ce sujet, un de nos confrères du Nord Kivu a recueilli le témoignage d'un habitant de Gongou qui était récemment, et il n'y a pas longtemps, le théâtre des combats entre les FARDC et les éléments du général Laurent Kunda.
Ces autorités ne peuvent parler aucune chose devant Laurent Kunda. Je vous l'assure et je vous l'assure bien. Ils ont peur de parler avec Laurent Kunda. Même aujourd'hui, il y a des militaires de Laurent Kunda à qui le chef ne peut rien dire. Même si vous vous y passez, on vous prémane, le chef ne peut rien dire. Voilà, je dis des trous dans les cavernes. Il dit que s'il ne faut vous bouger avec moi, je vais incendier toutes vos maisons. Il dit clair, vis-à-vis, sans tout pour vous mentir. Il lui dit. C'est ce qu'on dit, les arts de rêve attaquent les gens. Non. Ils n'attaquent pas la population. Ils pratiquent le marché pour nous échanger des livres et des archives de nos archétons. Donc c'est Laurent Kunda qui attaque les personnes rencontrées. Et Laurent Kunda a ses vengeances. Il ne se venge pas contre les adversaires qu'il se servent. Au contraire, il tue les gens, les personnes qui se trouvent dans l'abomination. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ne sont pas partis pour Rwanda? Il y en a qui ont été ravis de leurs biens par leurs frères, soit disant qu'ils sont des complices. Ils vivent dans notre milieu et nous vivons ensemble sans problème.
Martin Moukania, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques, paraissant à Kinshasa, vous avez suivi cet habitant de Gungu qui dit que l'argument avancé par Laurent Kunda pour justifier sa guerre, c'est l'argument selon lequel il est là pour protéger la minorité Tutsi, n'est pas vrai. Et d'ailleurs, lui-même, Laurent Kunda, persécute souvent ses propres frères, les Tutsis, et qu'il qualifie de traître. Votre réaction à ce sujet?
Mon cher confrère, il faut savoir, il faut connaître celui qui est derrière Laurent Kunda. C'est avec celui-là, ou avec ceux-là, qu'il faut nécessairement négocier pour le retour de la paix au Kivu. Bien sûr que Laurent Kunda a ses revendications. Il faut l'entendre en tant que Congolais. On l'a eu à l'approcher. Il y a eu une rencontre au sommet à Kigali entre Laurent Kunda et le général Numbi. Pourquoi ne pas approfondir le dossier jusqu'au bout? Laurent Kunda a eu à le rappeler. Il a écrit au Premier ministre pour dire que les engagements pris à Kigali ne sont pas respectés.
Mais le gouvernement est clair, pas de négociation. Au début, le gouvernement avait dit qu'il n'y aura pas de négociation. Bon, récemment, on a suivi le discours du chef de l'État au niveau du 62e Assemblée des Nations Unies, où il a parlé d'une diplomatie et des négociations. Vous pensez que le gouvernement poursuit cette voie pour l'instant?
Le chef de l'État, j'ai été à la conférence de presse, a préconisé deux voies pour mettre fin à la guerre. La voie diplomatique et la voie politique. Dans la voie diplomatique, c'est tous les efforts qu'ils tentaient de mener en rencontrant les autres pays frontaliers qui sont en quelque sorte impliqués dans les conflits en RDC. Mais la voie politique, c'est là où on ne va pas jusqu'au bout, justement. La voie politique, c'est quoi? La voie politique, il faut entendre Laurent Kunda. Il faut le rencontrer, dialoguer avec lui. Qu'est-ce qu'il a comme préoccupation? Pourquoi ne cherche pas à dialoguer avec lui? Pourquoi cherche à dialoguer avec lui? Faut-il accepter de dialoguer avec toutes ces personnes et laisser Laurent Kunda s'aimer la terreur, l'insécurité au nord du Kivu? Il faut dialoguer.
Merci. Roger Bolinda, un commentaire?
Oui, d'abord, je vais reprendre la phrase de l'archevêque Monsengo. Il a dit ceci: à qui profite la guerre à l'est de la RD Congo? D'abord, je veux faire un rétro de la conclusion tripartite de l'ISR tenue à Lubumbashi entre les trois chefs d'état-major des armées et le Uganda, Rwanda et notre pays. À mon humble avis, et même de quelques leaders sociaux que j'ai contactés, nous pensons qu'il y a risque d'être fait chapeler des distractions que notre pays a toujours connues. Mais de noter, selon moi, que cette rencontre n'a pas du tout escompté fondamentalement les préoccupations de bon nombre du peuple congolais. Ce qu'il faut faire dans l'immédiat, moi je pense, il faut d'abord arriver à asseoir l'autorité de l'État à l'est de la République démocratique du Congo.
Concrètement.
Neutraliser d'abord à tout prix Laurent Kunda et tous les commanditaires qui se trouvent dans le pays.
Donc vous optez pour. Vous pensez que l'option militaire.
Dans la partie est. Mais qui rejoint la tripartite a insisté plus sur le phénomène interam qui apparemment a une certaine connotation ici à l'intérieur où certaines personnes sont en train de devoir de bonner leur existence. Or, le chef d'état-major général de l'armée rwandaise qui a déclaré qu'il n'entretenait pas de relations avec Laurent Kunda. Mais qui ne sait pas que Kunda ne peut pas se permettre de hausser le ton sans le Rwanda? Et plus disposer d'un arsenal militaire aussi considérable qu'il n'a pas l'appui de Kigali. Non! On se le dit. Personne n'ignore que ces gars, le coup d'abattoire, ont un agenda qui n'est plus à cacher. D'abord, c'est de nettoyer ethniquement le territoire qui doit être démembré, notamment Massissi, Routourou, Milembe et les tas autres. C'est ce qui explique la présence des militaires des coups d'abattoire qui doivent malmener ou massacrer les populations non favorables à leur politique. Et ensuite, ils vont chercher à tout prix à installer leur. Qu'est-ce que je peux dire le territoire tant réclamé, il sera remplacé par les Rwandais. L'objectif final sera atteint par un processus qui ressemble fort bien à celui qui s'est passé au Kosovo. C'est ça. Ainsi, la communauté internationale, qui est favorable aux Rwandais et du démembrement de la RDC du Congo, va tout prix pour encourager un référendum de l'autodétermination. C'est ça.
Merci, Claude Mondicho au KMB. Vous êtes journaliste de la RTNC. Quelle est d'après vous la solution à ces problèmes sécuritaires en Nord Kivu?
Moi, je pense qu'il faut faire les choix sur ces dossiers au Kunda Batware. Et parce que vous savez que la politique, c'est un jeu, des rapports de force et des jeux d'intérêt. Il faut voir la force d'un Kunda. Et j'ai dit, il faut faire les choix. Pourquoi? Parce que il y a des fois, le gouvernement change de position. Il y a des fois, le gouvernement préconise la force pour mettre fin à cette insécurité menée par un Kunda. Et il y a des fois, le gouvernement dit qu'il faut négocier. Mais quelle est l'option que le gouvernement doit prendre? Quelle est l'option idéale que le gouvernement doit prendre pour mettre fin à cette tas de choses? Mais ce que nous savons, que la population, plus de 700 000 Congolais sont vraiment dans l'insécurité, ils sont sans habitation, ils sont dans la nature comme ça, ils souffrent. Et de temps en temps, ces gens-là qui sont sur le terrain, ils disent que non, Kunda est en train de recruter les élèves dans les écoles, par force et tout ça. Et ces gens-là demandent à ce qu'on mette fin avec cet état des choses. Mais au niveau du gouvernement, on dit qu'il faut négocier de temps en temps. On négocie avec Kunda à Kigali, et quelques temps après, on change de position. Non, cette fois-ci, on va faire ceci, on va les coincer. Mais on change de position pourquoi? Alors qu'un Kunda est en train de narguer tout un peuple, est en train de narguer tout un gouvernement élu. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement élu. Et s'il faut remonter jusqu'à 2004 ou 2003, Kunda avait même défié le gouvernement à cette époque-là. Et comme c'était 1+4, on a compris que non, Kunda est du côté du RCD, les gens ont interprété de cette façon. Mais au jour d'aujourd'hui, le gouvernement élu qui est là, qu'est-ce que le gouvernement fait pour sécuriser les 700 000 Congolais qui errent dans la forêt au niveau des routures massives? Et aujourd'hui, il faut mettre fin à ce tas de choses. S'il faut prendre l'option de mettre Kunda hors d'état de nuire par force, il faut le faire. S'il faut aller avec les négociations, il faut aller jusqu'au bout. Merci.
J'ai devant moi une dépêche de l'AFP. Cette dépêche, l'armée congolaise a affirmé hier jeudi avoir tué 35 soldats dissidents ralliés au général déchu Laurent Kunda au cours des combats au Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les insurgés ont attaqué tôt le matin les positions des FARDC à Oumere, près de la localité de Gungu, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Frédéric Nikoloff, vous êtes journaliste de Radio-Canada. Que savez-vous autour de cette question? Parce que le Monseigneur Laurent Monsengo parle, il faudra que tout d'abord respecter certains droits. Il dit qu'il faudra d'abord respecter certains droits au niveau national et au niveau international. Quel est votre commentaire autour de cette question sécuritaire à l'est de la RDC?
Oui, dit Roger, il faut dire qu'au moment où vous lisiez cette dépêche, je l'ai sous les yeux, cette même dépêche. Alors vous voyez que les informations circulent à notre époque à une vitesse extraordinaire.
Merci.
Vous étiez en train de la lire et justement, je la lisais en même temps que vous. Et j'ai été impressionné d'ailleurs par ce que disait Monseigneur Monsengo lorsqu'il dit « À qui profite la guerre ?» C'est la question fondamentale que l'on doit se poser. Parce qu'en posant cette question-là, on doit identifier les différentes parties aux prises dans cette guerre épouvantable qui non seulement fait un tort épouvantable aux populations locales, mais embrase aussi toute une région et risque, et on le sait très bien, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans nos médias à nous, risque encore une fois d'embraser cette partie de l'Afrique très sensible. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque l'on parle des différents protagonistes dans cette même dépêche que vous avez citée, on parle généralement des insurgés. C'est un terme un petit peu neutre, si vous voulez, que l'on adopte, que l'on, que, qui sert à qualifier un petit peu toutes les personnes qui sont partie prenante dans un conflit. Mais Monseigneur Monsevego le disait très bien, il faut non seulement connaître ces gens, savoir à qui profite la guerre, mais les connaître, parce que c'est là que l'établissement d'un dialogue est possible. C'est par exemple ce qui se passe en Afghanistan en ce moment. Lorsque l'on parle des talibans, on parle des insurgés en général, parce qu'il n'y a pas rien que des talibans en Afghanistan qui luttent contre la présence de l'OTAN dans ce pays, mais il y a aussi d'autres personnes, d'autres factions qui sont là. Donc connaître ces factions-là, connaître ces gens, et surtout se poser la question à qui profite la guerre, c'est le début d'un dialogue qui, je pense, pourrait être profitable, en tout cas j'espère.
Frédéric, mais les confrères l'ont évoqué également ici, et certains observateurs, ils parlent du Rwanda, et ils disent que c'est le Rwanda qui alimente pratiquement Laurent Kunda. Est-ce que qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Parce qu'on a vu également des rencontres, des tripartites entre la RDC, le Rwanda et tous les pays voisins qui connaissent de problèmes avec notre pays, mais finalement, y a-t-il une franchise dans ce qu'ils se disent ou dans toutes les décisions qui se prennent?
Oui, Frédéric Roger, c'est vraiment une question difficile pour moi de répondre à cette question depuis le Canada, ça c'est évident, vu que sur le terrain, il faut y être pour pouvoir se rendre compte exactement de la situation. Ce que l'on sait au niveau international, c'est clair que cette présence rwandaise chez vous dans l'est de votre pays, elle ne date pas d'hier, d'ailleurs elle date de plusieurs années. On peut remonter d'ailleurs même avant le génocide rwandais, où il y avait déjà une forte influence rwandaise dans l'est de votre pays. Ça s'est évidemment amplifié avec la horde de réfugiés suite aux massacres qui ont eu lieu au Rwanda, mais c'est clair que là aussi c'est une question d'équilibre, un équilibre visiblement très 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 fragile, et c'est simplement une espèce de négociation, enfin simplement non, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est une négociation au niveau international et sur le terrain qu'il va falloir faire à un moment donné, avec encore une fois le mot compromis comme mot fondamental pour pouvoir arriver à une solution.
Merci Nicolas. Rigobert et Bolinda, donc vous pensez qu'il y a lieu de négocier avec le général depuis Laurent Kunda?
Vous savez que Kunda Batware ne sera jamais arrêté, moins encore inquiété. Tout simplement parce que le territoire qu'on est en train de créer constituera un déversoir de surplus de population rwandaise qui se trouve au niveau du Rwanda. Le Rwanda a donc tout intérêt d'encourager cela par tous les moyens. Monsieur Nara, et que les Congolais que nous ne sommes pas en mesure d'empêcher cela parce que nous jouons aussi ce mauvais jeu-là, tout comme la Monique qui est aussi au parfait de ce jeu.
Merci.
Honorable député provincial, je cite, on dirait que certaines autorités entretiennent ce mauvais jeu comme si c'était une condition pour rester au pouvoir.
Merci, merci, Robert.
Pour conclure,
oui, rapidement, dans deux minutes.
L'état-major de FABC doit à tout prix chercher à démanteler les réseaux nationaux qui soutiennent Laurent Kunda. Merci.
C'en est donc fini avec cette tribune de la presse. Merci à nos invités. Je rappelle que nous avions dans ce studio Claude Molichot, KMB, journaliste au service radio de la RTNC, Martin Moukania, directeur de rédaction du journal La Tempête des Tropiques parissant à Kinshasa. Au téléphone, nous avions Roger Ebolinda, correspondant au Maniema des journaux L'Étendard, La Tribune et Congo Matin, et Frédéric Nikoloff, journaliste de la Radio-Canada. Merci également à Nadine Foula qui a réalisé cette émission. Merci à Jean-Claude Siala qui était à la technique. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Thank you.